Alors, ce qu'ils ont accepté, on va conforter, renforcer cette acceptation par son contraire. Ça, c'est la thèse de chose. Elle est reprise aussi par l'autre archive. Pourquoi il y a une contraire? C'est pour aider, renforcer l'acceptation qu'ils avaient d'eux. Le Maharaj a choisi de toute autre manière d'expliquer. Ou chez Amiré, et la gloire m'a eu brûlé. Mais apparemment, ces choses-là, ces paroles-là, ce que vient de nous dire Tosso, n'est pas suffisamment clair chez les Emma. Là où il est dit, Israël est arrivé au Kabbalah Torah. Ici, le Maharaj va discuter la manière dont Tosso l'a expliqué. Je me demande à le rappeler, nous allons un peu avancer. Tosso veut dire ceci, oui, ils ont accepté. Seulement, l'ordre était tel qu'ils auraient pu se raviser. Alors quand ils ne se ravisent pas, ça leur a été imposé. L'argument est clair. Le Maharaj a discuté, l'argument est clair. Alors prenez plus loin. Et vous allez rejoindre la ligne que j'ai soulignée. Hier, l'expression Anachno qui va nous à Torah Meratsmen. Alors prenez une ligne avant. Voilà la thèse du Maharaj. Avar, Marche Kafa, Alehe, Mahar. Selon le nombre d'Israël, Anachno qui va nous à Torah Meratsmen. Voilà le dit, il y a toute autre raison. C'est pour que Israël ne dise pas. C'est parce que nous avons bien voulu que nous l'avons accepté. L'enjeu de la Torah est tel, ça peut être confié aux aléas des motivations de la volonté, vérité, ou de la vérité volonté de la créature. La Torah, c'est le statut du monde. On ne peut pas confier un enjeu d'une telle importance au caprice de la volonté. Un jour, je veux, un jour, je ne veux pas. Alors, pour éviter cette prétention d'Israël de dire « c'est parce que nous avons bien voulu que nous avons accepté la Torah », Dieu va leur répondre. Mais ça a tout un système d'explication. Je continue. « Et nous aussi, et si nous n'avons pas voulu, nous n'aurons pas reçu la Torah. » Mais d'abord, c'est « ceci n'est pas la hauteur de la valeur, de l'enjeu que représente la Torah. Qui a Torah kolaralam taluva, car de la Torah le monde entier dépend. Et loin de Torah, ayaholam kozeretu l'amour. Si la Torah n'était pas, faudrait dire, si la Torah n'avait pas été acceptée, le monde entier serait rentré au chaos. Kufira, enraou, ce qui est Kabbalah Torah avec le peuple d'Israël. Et c'est pourquoi il n'est pas convenable. Cela n'est pas, raoui. Aidez-moi à traduire. Ben, vous avez compris. Enraoui, j'étais convenable. Ce n'est pas approprié. D'accord. Que l'acceptation de la Torah dépend du choix d'Israël, de la liberté de choix, du libre arbitre. Mais il fallait que Dieu les oblige et les contraigne, les caber la Torah, de recevoir la Torah, chez Yev Charles du Lapsé, car il est impossible autrement. C'est le Yahweh, de telle sorte que le monde n'en soit pas au chaos. Ça, c'est un enseignement de l'Ishmaki, qui se trouve dans la même page de la Gemara, à propos de l'expression Yom Hashish. Vaïaël et Vaïmoker Yom Hashish. Comme tous les autres jours dans le Maaseh Bereshit, il y a Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, sans l'article, Yom Hashishi, et avec l'article. Et ce qui sort ce matin, le sixième jour. Et ce qui se dit, c'est une allusion au sixième jour du 6 Sivan. Ça veut dire quoi? Que Dieu a fait un contrat avec le monde. Le monde avec Maaseh Bereshit, avec l'homme du commencement, les cieux et la terre. Si Israël accepte la Torah aussi, il sait bien, sinon je vous renvoie au chaos. Encore une fois, nous aurons l'exemple de ce que c'est qu'un midrash. Alors, il faut comprendre la logique de ce midrash. Le monde a été créé en vue d'une finalité. Le monde a été créé comme demeure de la créature qui accepterait de se conduire d'après la vérité du monde, la vérité morale, la Torah. Et par conséquent, l'existence, la cohérence de l'existence du monde dépend du fait que, dans l'histoire, la créature accepterait un jour la Torah. Et s'il s'avère qu'il n'y a aucune créature pour accepter la Torah, le monde n'a plus de base, n'a plus de fondement, et rentre au chaos. Premièrement, remarquez que le texte ne dit pas « je rentrerai le monde au néant, mais au chaos ». Et toute l'organisation du monde dépend de la Torah. Non pas l'existence du monde, mais le kiyou. Un peu ce qui est arrivé au peuple juif. La Torah dit que l'humanité a été effacée, pas détruite, effacée. La forme qu'avait la nature humaine de cette expérience, de cette civilisation-là, est effacée, parce qu'elle a échoué. Mais la nature elle-même n'est pas détruite. De la même manière, la forme des lois qui gouvernent le monde serait entrée au chaos, mais le monde n'est pas détruit. C'est un autre niveau. Pas dépendant du fait que la créature accepte ou pas la Torah. C'est une toute autre éventualité que le monde disparaîtrait. J'en profite pour relier cela à la notion de la fin des temps. Ce n'est pas du tout dans la mentalité juive que la fin des temps, ça veut dire la fin du monde. Ça, c'est dans la mentalité chrétienne. La fin des temps, ça veut dire la fin d'une certaine période de l'histoire du monde. La fin d'un éon, comme disent les philosophes. E-O-N. E-O-N. Mais, je vais raconter une anecdote. Vous savez, juste après la guerre, j'étais invité par le CJM à faire une conférence dans le Pays Basque devant un couvent de moines basques. Ils étaient tous en soutane et béret basque. Ça faisait un effet basque. Et alors, leur question principale était, les Juifs reviennent à Jérusalem, est-ce que c'est la fin du monde ? J'ai mis un peu de temps pour comprendre quelle était la logique de leur question. Ils voulaient faire allusion à la fin des temps. Moi, ça m'a fait comprendre pourquoi il y a tellement de Goïms qui s'opposent à ce que les Juifs reviennent à Jérusalem. Parce qu'ils craignent plus ou moins inconsciemment que c'est la fin du monde pour eux. En fait, du point de vue de l'hébreu, Ahari Bayamin, c'est la fin des temps d'exil. C'est pas la fin du monde. C'est la fin d'un temps du monde. Je referme la parenthèse. Et je voudrais ouvrir ici une analyse de la manière suivante, pour vous aider à lire plus rapidement le texte du Maharal. On a bien compris, au fond, tous les éléments du problème. Les deux choses sont vraies. Israël a accepté et Dieu a imposé. Lorsque on entend cet enseignement, la Torah a été donnée par contrainte, on risque d'oublier que d'autre part, c'était vrai qu'Israël avait accepté. Mais lorsqu'on met l'accent sur le fait qu'Israël avait accepté de sa propre bonne volonté, comme dira Kant, je parlais de Kant tout à l'heure un peu plus, on oublie qu'il est vrai d'autre part aussi que c'est sous la contrainte que la Torah a été donnée. Et la contrainte de la révélation elle-même. Eh bien, je crois que la solution est dans la formule suivante. C'est bien par contrainte que la Torah a été donnée. Mais elle a été donnée par contrainte qu'à ceux qui étaient prêts à l'accepter librement. Et le Maharal va se servir d'une image très forte. C'est l'image du mariage. On ne marie que les fiancés. Mais les fiancés, on les marie. Et j'ai compris la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est volontairement qu'on accepte l'alliance, l'alliance est imposée. Et pourquoi ? Pour qu'elle soit irréversible. À cause précisément des caprices de la motivation et de la volonté. Lorsqu'il y a eu expérience suffisante qui avait vraiment bonne volonté, alors c'est imposé. Est-ce que c'est suffisamment clair ? Et nous verrons comment le Maharal va l'expliquer. Alors ça fait voler en éclat toute l'analyse de la philosophie générale concernant le problème du devoir, concernant le problème de la bonne volonté. Je vais employer deux termes philosophiques, mais que je vais expliquer. Enfin, je vais me baser sur Kant, surtout, parce que c'est son vocabulaire qui a été choisi par les historiens de la philosophie. En philosophie, en général, on se demande où est la dignité morale. Dans une morale de l'hétéronomie ou dans une morale de l'autonomie. Ça veut dire quoi ces mots-là ? Hétéronome, ça veut dire que la loi est imposée de l'extérieur de la conscience. Hétéronomos. La loi est donnée de l'extérieur. Autonome, ça veut dire que la loi procède de ma conscience même. Et vous voyez qu'il y a une sorte de cliché, il faut rentrer un autre terme, de postulat, dans la culture occidentale, que la dignité morale, c'est dans l'autonomie. Je veux la loi. La loi m'est imposée, c'est pas joli pour la conscience morale occidentale. La discipline qui vient de l'extérieur, non, c'est la bonne volonté qui vient du dedans même de la conscience. Vous voyez quel est le couple, quelle est la problématique. Alors, les historiens de la philosophie, en général, ils se basent sur Kant, ont tendance à dire qu'il y a une évolution. Et c'est une mentalité très chrétienne de la critique chrétienne du judaïsme. Il y a d'abord le stade de l'hétéronomie. À un enfant en bas âge, on lui donne la loi de discipline, et ensuite, à la maturité, il accède à l'autonomie morale. Et l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et toute la manière habituelle de théologien d'exploiter ce thème. Est-ce que c'est clair? D'abord hétéronomie, la loi, la discipline, et ensuite autonomie, la bonne volonté, l'amour et la foi. Petite parenthèse, quand j'ai fait mes études d'ethnologie, j'ai eu en cours pratique à étudier des comptes rendus de théologiens belges d'ailleurs au Congo belge. Des missionnaires du Congo belge qui convertissaient les primitifs, enfin les Africains. Et alors, le problème était le suivant, c'est que ils avaient à résoudre un problème théologique apparemment qui nous paraît comme aberrant, mais qui pourrait être très sérieux. Est-ce qu'il fallait d'abord mener les animistes au judaïsme et ensuite au christianisme? C'est-à-dire d'abord les faire passer par le stade de la loi imposée pour qu'ensuite ils puissent apprécier le progrès de l'amour gratuit. J'ai compris qu'il y avait une difficulté de problème. D'ailleurs, très souvent dans mes discussions sur l'autorité chrétienne, j'utilise un peu cela, je leur demande naïvement, parce qu'il n'y a jamais de naïveté chez les théologiens, on dit naïvement, mais quand vous convertissez à un gentil ou christianisme, vous en faites d'abord un juif et ensuite un chrétien. Et, en tout cas, vous voyez ce que le Maharal nous dévoile ici, ça me semble extrêmement fort par rapport à ce problème. C'est que c'est l'inverse. C'est que c'est l'inverse. Ce n'est qu'à celui qui est capable de la morale autonome, je veux le bien, que la loi est imposée, et non pas l'inverse. Je répète, pour que ce soit bien clair, parce que vous dévisez un peu ce renversement. Je répète cela. C'est-à-dire, le peuple d'Israël a d'abord passé un test. Est-ce que de lui-même, il accepte la vérité morale? Et quand Dieu a été sûr que de lui-même, le peuple d'Israël accepte la vérité morale, alors Dieu la lui impose. Pour que ça soit sûr, que ça soit irréversible. Voilà, c'est pas plus difficile que ça, donc c'est l'inverse. Il y a d'abord le stade de l'autonomie, et ensuite seulement le stade de l'autonomie. Alors là, il faudrait ouvrir une énorme parenthèse en pédagogie. D'autant plus que on s'est habitué, dans les milieux juifs pieux, à la pédagogie de Naase Venishma, dans l'ordre, fais d'abord, tu comprendras ensuite. Alors que l'ordre que vous avez indiqué ici, c'est l'ordre inverse. C'est celui qui veut par lui-même, qui a suffisamment compris ce qu'il y a à faire, à qui on demande de faire. Alors je voudrais vous donner une parenthèse, parce que tant plus qu'il n'y a pas de hasard dans ces sujets-là, c'est dans la même page de la Gemara de Shabbat, qui est l'enseignement du Naase Venishma. Naase Venishma, qu'on utilise dans cette pédagogie, consiste d'abord à se mettre à l'abri du faire pour se donner le temps du comprendre, du savoir. C'est en train de réfléchir, savoir faire. Le savoir vient avant le faire. Mais là, le faire vient avant le savoir. Naase Venishma, c'est un drash. C'est-à-dire, le pshat, c'est l'inverse. Le pshat, c'est on écoute d'abord ce qu'il y a à faire et ensuite on le fait. Mais là, on fait avant d'écouter. Avec le faisceau de sens du terme lishmoa, signifie à la fois écouter et comprendre. D'ailleurs, on a dit que lorsque les Hébreux ont dit Naasé ve Nishma, Naasé avant Nishma, Dieu a dit qui a dévoilé ce secret à mes fils, ce secret qui est le propre des anges, qui font pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Ça veut dire que le pshat, c'est Nishma ve Naasé. Et que c'est un ordre allogique qu'Israël a accepté Naasé ve Nishma. Et il y a là toute une dialectique dans les Mefarshim de la Gemara que je vais vous résumer sur certains points. Et pourquoi le Kitakuah va Asayaha Kendodi ben Abaniko et que Israël est comparé. En fait, il est comparé par l'imitation de Dieu, par l'analogie avec Dieu. Il est comparé à la pomme, au pommier. Et le Tosfot explique qu'il s'agit du cèdre, cette pomme. C'est un arbre qui donne des fruits avant de donner des feuilles. Mais Tosfot explique qu'en réalité, les feuilles de la récolte précédente restent pendant que les fruits de la récolte suivante apparaissent. C'est-à-dire, à l'abri du Nishmar précédent, le Naasé futur se formule. Est-ce que l'idée est suffisamment claire? Si vous voulez que cet ordre, le Naasé et le Nishmar, a d'abord un ordre logique. C'est Nishmar vers Akach Naasé. Finalement, il y a urgence dans l'ordre du fer. On se met à l'abri du fer. Un fer qui a été élaboré par un Nishmar précédent, la génération précédente. Il y a un ordre différent pour celui qui enseigne ce qu'il y a à faire et pour celui qui écoute ce qu'il y a à faire. Pour celui qui enseigne ce qu'il y a à faire, le Nishma a précédé le Naasé. Mais pour celui qui écoute ce qu'il y a à faire, le Naasé va précéder le Nishma. Mais tant qu'Israël n'a pas dit, n'a pas ajouté Nishma à Naasé, l'alliance de la Torah n'a pas été. Il y a trois fois cette expression. Deux fois il n'y a que Naasé, et la troisième fois il y a Naasé le Nishma. Et c'est quand il y a Naasé ve Nishma que l'alliance de la Torah a été conclue. Voilà donc ce que je voulais ajouter concernant cette expression elle-même. En fait, je reprends donc l'analyse théorique du problème. Il faut s'habituer à ça, qu'il y a d'abord acceptation de la bonne conscience et alors la loi, et non pas l'inverse. D'abord que la loi est imposée dans l'espoir d'accéder à la bonne conscience. Comme j'ai bien conscience que le sujet est nouveau, alors je vous demanderai quand même de réagir. Si vous avez des. Je voudrais être certain que c'est suffisamment clair. Je répète encore une fois l'analyse. En philosophie générale, l'ordre c'est hétéronomie d'abord, autonomie ensuite. Voilà l'ordre de la dignité morale. Le Maharal nous dévoile qu'au Sinaï, c'est l'inverse qui s'est passé. La Torah a été imposée, hétéronomie, à l'homme qui était déjà prêt de par lui-même à l'accepter autonomie. Ça veut dire qu'il y a d'abord l'apprentissage de l'autonomie morale, alors seulement est la garantie de du code, de la loi. Et l'image, encore une fois, c'est le mariage. On ne marie que les fiancés. Mais les fiancés ont marié. Qu'est-ce qui se passe sous la coupa? C'est qu'il y a un contrat, mais on a contracté. Parce que Moïse dit à Dieu, ils ont dit, tout ce que je dirai, nous ferons. Alors Dieu dit à Moïse, si l'un est ainsi, je viens dans l'opaque de la nuée pour parler avec toi, de telle sorte que même en toi, il dévoie à jamais. Ça veut dire que jusque-là, il n'avait pas en foi dans ce que Moïse voulait dire. Une parenthèse. Dans le contenu même du message, bon, il y avait, voilà, tout le temps où Israël était en Égypte, il y avait une tradition de la foi des ancêtres, de la foi des patriarches, que l'exil prendrait fin, que Dieu interviendrait, mettrait fin à l'exil et ramènerait le peuple des Hébreux au pays de leurs ancêtres. Et schématisé, c'est clair. Avant Moïse, voilà ce en quoi Israël croyait. Depuis Abraham, Isaac et Jacob, on veut dire la Torah, Isaac et Jacob, c'est dit de façon évidente. De Torah, aucune allusion. Et voilà que Moïse réalise cette foi d'Israël qui est au fond schématise un peu, pas autre chose que le sionisme. L'exil va prendre fin et on rentre au pays des ancêtres. Voilà la foi des Hébreux en Égypte. Et Moïse réalise cette foi des Hébreux en Égypte et le fait sortir en Égypte. Dans les tribulations que vous savez notre part. Le refus des Égyptiens, le refus des Hébreux et la difficile tâche de Moïse pour arriver à réussir un cinquième du salut des Hébreux de l'Égypte. Il les amène au pied du Sinaï et il leur dit voilà ce que Dieu me charge de vous dire dès l'Égypte. Et quant à vous, vous serez pour moi un peuple de frères et une nation sainte. Voilà les paroles que tu dois dire au peuple d'Israël. Pas encore les 10 commandements. Dans l'ordre du récit, voilà ce qui devait se passer au Sinaï. Vous devez transmettre toute la Torah à un message, vous serez un peuple de frères. À ce moment-là, quand la chef dit de Rachel, tout ce que je dis là, je vais mettre l'accent du parmi. Le peuple répond oui. Tout ce que Dieu dira nous faisons. Ben, tout ce que tu nous dis toi-même, c'est trop nouveau. Ça a l'air d'être un Nouveau Testament. C'est nouveau, alors que Dieu se révèle pour lui. En quoi c'est nouveau? Je reprends, parce qu'on est tellement familier qu'on lit l'histoire avant l'air. Avant le Sinaï, personne ne se doutait du Sinaï, sauf à celui de Lévi qui est dans le coup. Mais avant le Sinaï, quelle était la foi d'Israël, la fin de l'exil, les couleurs. Et celui-là même qui a réalisé la foi d'Israël, la fin de l'exil, vient leur dire il y a une Torah à la clé. C'est tellement nouveau que le peuple dit on veut l'écouter de Dieu. C'est ça qui se passe. On ne connaît pas encore la suite. Alors Dieu dit c'est comme ça, et bien je vais vous révéler à eux deux par là, comme ça tout ce que tu leur diras, ils auront foi en toi. Regarde, des fins, il y a des gens. C'est bien clair? Donc, il faut se réhabituer à lire le texte dans l'ordre. On ne connaît pas la suite. Voilà, jusque-là, ce qui se passe. Ça veut dire, le message que Moïse leur a transmis est tellement nouveau qu'il était nécessaire que Dieu se révèle pour le confirmer. Et c'est la grandeur d'Israël d'avoir exigé cela. Lorsque il y a une révélation au patriarche, la descendance des patriarches a eu foi par cette révélation au patriarche. Mais relisez la révélation au patriarche. Elle tient tout entière dans cette formule. Ta descendance sera l'exil, mais l'exil pour la fin. Encore une fois, en termes sociologiques simples, c'est exactement ce que nous. C'est-à-dire, la foi de nos ancêtres dans l'exil, dans tous les livres, c'était l'exil pour la fin. Dieu l'a promis au patriarche. Et voilà que Moïse, celui qui réalise le programme sioniste de l'Égypte, si vous voulez, leur parle de « Dans les fêtes qu'on est, vous allez être le peuple de traite de l'humanité. » Alors le peuple réagit en disant « Eh bien, que Dieu le dit, mais ils sont prêts à le faire si Dieu le dit. » Et donc, de nouveau, en se maintenant tout cela, lorsque Dieu a fait passer ce test à Israël, est-ce qu'Israël serait prêt de par lui-même, alors qu'une preuve de quoi il s'agit. C'est ça la grandeur du scrutin d'eau. C'était au temps où on ne savait pas l'histoire, on ne savait pas ce que serait l'histoire d'Israël, les premiers sont engagés à une histoire a priori avant de savoir de quoi il allait s'agir. Mais ils étaient prêts à s'engager. Alors à ce moment-là, Dieu décide de l'imposer pour que ce soit sûr et irréversible et pour s'interdire de changer le code d'Israël. Là, je me réfère à tout un passage du prophète avant. Il y a des turbulences dans la relation conjugale comme bien vénère entre Israël et son Dieu. Il y a des cas de divorce. Tout se passe comme si, je détends un peu le sujet, Dieu a souvent la tentation de dire allez, on va au bêtis. Parce que vous exagérez. Mais alors, le prophète avant dit ceci en clair. Si je ne m'étais pas interdit de vous changer, il y a longtemps que je vous aurais changé avec un autre texte. Relisez un mot. Mais je ne sais pas. Dieu a dit, j'ai juré, et c'est irréversible. L'alliance est irréversible. On a échappé belle. Hein? Alors, c'est pour ça que Dieu a imposé ce mariage, c'est pour qu'il n'y ait pas de divorce. Un mariage a occulté. Mais la Torah a prévu le divorce aussi. Qu'est-ce que ça veut dire un mariage? Il n'y a pas de divorce. Le divorce est possible. Et le mariage a été dit, mais il y a un cas où le divorce est imposé. C'est quand la femme a été prise de force. Alors le mari n'a plus le droit d'être divorcé. C'est ce qu'on va dire. C'est ce qui s'est passé. Dieu attendait Israël en mariage. Israël a accepté, alors Dieu l'a pris de force pour s'interdire de la divorcer. Vous voyez, la plus belle analyse du Maharal, il va au-delà de l'objection la plus justice. Il s'agit effectivement de rendre la promesse irréversible, c'est un mariage où il ne peut pas y avoir de divorce. Et c'est la raison pour laquelle c'est par contrainte que la Torah est donnée à Israël, pour que ce soit Israël, les Olmeas, pour l'éternité, qu'il soit Israël, et qu'il n'y en a pas d'autre. Est-ce que c'est le cas, vous voyez? Quel est le souci du Maharal? Parlez plus fort. Mais non. Non, non. Oui, mais elle est différente entre Israël en tant que collectivité et les individus. Israël en tant que collectivité n'a jamais fait. Et ne le fera jamais. En tant que collectivité, les individus sont les individus. Vous comprenez bien le niveau de la réponse. Et là, vous avez, c'est un passage qu'on n'a pas traduit juste avant, mais, et là vous avez tout un passage à Ézéchiel. Où Ézéchiel, c'est quand cette évangélité. Vous dites que vous voulez divorcer, eh bien je ne vous laisserai pas divorcer. Et je règlerai ce vous. Alors la fréquence à la Hamatré. Je règlerai ce vous d'abord. Mais je crois qu'il y a là, effectivement, un moment extrêmement important. C'est dans ce problème de la dialectique, donc acceptation de la Torah, quel est l'ordre des valeurs de cet ordre, que ce soit une alliance irréversible. Je reprends depuis le début de l'analyse. Il y a d'abord eu le temps des fiançailles, où Israël a accepté, et ensuite il y a le temps du mariage, où l'alliance du mariage, l'alliance, et peut-être de cet ordre que ce soit réel. En tout cas, du point de vue de Dieu, effectivement, cette alliance est irréversible. Et puisque Dieu ne change pas, alors cette contrainte reste perpétuelle pour Israël. Je dirais, pour détendre un peu le sujet, tant qu'Israël pratique Purim, c'est le signe qu'Israël ne demande pas le divorce. Ah oui, nous avons la clause la meilleure. Quelle est notre Torah, finalement, le carnaval? En fait, de Purim, bien sûr. Vous vouliez aussi poser une question à côté? Qui a levé la main? Vous n'étiez pas là tout à l'heure. On l'a déjà dit. Vous êtes rentré en retard? Bon, je vais répéter quand même. Bon, puisque la deuxième personne là. Tout à l'heure, on a étudié de quelle nature était cette contrainte aussi même. La réponse est très simple. C'est la révélation elle-même qui est cette contrainte. Quand Dieu se révèle, il y a contrainte. Or, le temps de la Hagadah, c'est le temps de la révélation. C'est le temps où la révélation a cessé. C'est la fermeture du canon biblique. La prophétie se tait au temps de Megillat Esther. Et d'ailleurs, la trace de ce silence de la prophétie, c'est le fait que le nom de Dieu ne paraît pas dans la Megillat Esther. C'est l'achèvement du temps de la révélation. C'est-à-dire, bien que la contrainte de la révélation ait cessé, Israël a continué à rester fidèle à la Torah. Encore une fois, avec la réponse tout à l'heure, en tant que collectivité, bien sûr qu'à l'échelle individuelle, on voit bien d'ailleurs, le nombre de demandes de divorce à l'échelle individuelle montre bien cette difficulté de tension de la fidélité entre Israël et son Dieu. Je crois que cette image du mariage qu'a choisi le Maharal est plus qu'une image. Il y a, si vous étudiez la Masechet Sittim, vous verrez au troisième chapitre, si je me souviens bien, la Torah, la Gemara, étudie tous les cas de divorce qu'un Beit Din refuse. Par exemple, lorsqu'un mari s'est mis en colère et il a divorcé sa femme en disant tu te répudies, parce qu'il s'est mis en colère. Eh bien, le Beit Din ne considère pas ça comme un divorce, comme une motivation de divorce. Il y a des hauts et des bas, il y a des aléas dans ce bien-fuit. Mais au-delà de cela, transcendant tout cela, il y a le fait d'une alliance irréversible, et c'est pourquoi cela a été imposé. Je répète, parce que la difficulté vient de ce que nous sommes habitués, à cause de notre culture générale, à un tout autre ordre des valeurs. Encore une fois, je répète, dans l'imprégnation des cultures générales auxquelles nous sommes habitués, eh bien, il y a d'abord le stade de l'hétéronomie, et ensuite le stade de l'autonomie, alors que selon cet enseignement du Maharal, c'est l'inverse. Il y a d'abord eu le stade de l'autonomie. C'est le temps des Avos. Les Avos, par eux-mêmes, ont choisi Dieu. Alors Dieu a imposé sa souveraineté à la descendance de ses avants. Il y a d'abord eu pardon, le choix libre du bas en haut, et ensuite il y a eu la transcendance du haut en bas. Attendez, j'entends pas, pas plus fort. Ça veut dire que c'est autant d'Ahasuerus qui se dévoile qu'il l'avait accepté volontairement au Sinaï. Effectivement, il y a une adhésion d'une deuxième nature à partir du temps d'Ahasuerus. Là, je répète brièvement, à un moment d'analyse que vous n'avez pas eu, puisque vous n'étiez pas là tout à l'heure, nous sommes les Juifs. Et il nous est parlé de la Torah des Hébreux. Or, le temps des Hébreux est très, très différent du temps des Juifs. Au temps des Hébreux, il y avait révélation. Au temps des Juifs, la révélation est cachée. Nous étudions dans les livres et avec des maîtres la trace de la parole qui avait été donnée au temps des Hébreux. Et au temps des Hébreux, cette parole se révélait dans une expérience que nous, les Juifs, nous n'avons pas. Il n'y a que ceux qui sont doués du roi Hakodesh qui ont un peu cette expérience qu'avaient les Hébreux du temps des prophètes. Je crois que il faudrait restituer cela. Nous sommes secondarisés par rapport à une expérience qui a été primaire au temps des Hébreux. Nous sommes obligés de passer par des médiations théologiques pour envisager des expériences qui ont été immédiates par nos ancêtres qui vivaient au temps des prophètes. Et alors, quand la grande erreur, enfin non, le grand handicap des Juifs, c'est qu'ils font semblant que le monde dans lequel ils vivent, c'est le même que celui dont la Bible parle. Or, c'est pas le même monde. Le monde dont la Bible parle, c'est un monde où Dieu se révèle. Alors que le monde où les Juifs vivent est un monde où Dieu est caché. Et il faut prendre ça au sérieux. Vous savez, nous les rabbins, quand un Juif vient nous dire « Dieu s'est révélé à moi », on leur donne l'adresse d'un psychiatre. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas que Dieu se révèle, mais il y a des conditions. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Vous savez, ça nous arrive tous les jours, enfin tous les jours presque, que des gens viennent nous dire « Je l'ai vu ». Bon, alors on cherche avec une stratégie appropriée à faire ça avec beaucoup d'adresses, on a un carnet avec beaucoup d'adresses, pour envoyer. Est-ce que c'est clair? Il ne faut pas faire semblant d'esquiver le problème. Il y a un temps différent entre les Hébreux et les Juifs. Et le problème des Juifs, c'est que tout se passe comme si nous sommes en train de redevenir Hébreux. Et alors, on compte qu'il s'agit d'une mutation d'identité. Il y a si longtemps que c'est arrivé, il y a 2000 ans, dans la rage de Roche. Et alors, pour répondre à ta question, il est évident que l'adhésion au judaïsme est un deuxième mérite après l'adhésion à l'hébraïque. La problématique de l'adhésion à l'hébraïque était déjà une première problématique, c'est ce qui se passe au Sinaï, depuis le Sinaï jusqu'à la Révestère. Et l'adhésion au judaïsme est une deuxième problématique, ce qui se passe à partir de l'arrêt de la révélation. Je crois que je vais beaucoup insister là-dessus. Alors, on va lire quand même le texte. Oui, quelque chose. Oui. Thank you. revient une parenthèse à partir de cette question, on revient tout de suite au texte. Comment on pose en général la question? Tout ça parce que si nous sommes en train de vivre des événements un à l'autre à la sortie d'Égypte. Oui, mais enfin, la sortie d'Égypte, il y avait un bruit. Au fond, c'est ça la question. Mais est-ce que. Je ne sais pas comment formuler ça. Et j'ai vous dit qu'il y avait un bruit. Et rappelez-vous, quand on a sorti d'Égypte, c'est quand on trouvait un bruit, là, quand c'était dans nous. Je ne sais pas si c'est clair. C'est-à-dire que. Non, j'ai très bien compris la question. C'est-à-dire qu'on a mythifié ce dont la vue a parlé, et je ne veux pas dire qu'on l'a fait exprès, peut-être pour ne pas reconnaître quand ça recommence, hein, mais on a mythifié ce dont la vue a parlé, et qu'on n'arrive plus à reconnaître ce dont elle a parlé. Et c'est pourquoi il faut s'en tenir au chat le plus près. Le peuple israël est en train de revivre une histoire à sa manière, à l'échelle d'une société. Une histoire que la Torah nous a racontée dans la famille des patriarches. Lorsque la Torah nous raconte l'histoire de la famille des patriarches, elle nous raconte cette histoire de la fin de l'Église et d'une réhébraïsation de l'identité abrahamique avec toutes les difficultés et toutes les problématiques que nous sommes en train de vivre à l'échelle du monde. Je le rappelle en le résumant, Abraham revient d'exil, il s'appelle Abraham, c'est là que l'histoire commence. À la sortie d'Oukhazim. Et le premier problème, c'est qu'est-ce qu'Abraham faisait à Oukhazim? Mais c'est pas plus difficile que de poser la question de savoir est-ce que les Juifs font à Sartène ou à Mourir. Qu'est-ce qu'Abraham faisait à Oukhazim? Ce que les Juifs font là où ils se trouvent, en Égypte. Mais effectivement, la famille d'Abraham faisait à Oukhazim ce que les Juifs font, ce qu'ils font en Égypte. Et il faut pas mythifier cela. Et quoi qu'il en soit, Abraham sort d'Égypte. Il s'appelle Abraham. Et la Gemara dit en clair, son identité était araméenne. Abraham, c'est Ab et Aram. Et il faut tout un effort de retrouver l'identité hébraïque, alors là, il s'appelle Abraham. Et là, l'alliance va commencer à... Ce sont toutes ces vérités, c'est là, et si là, que nous sommes en train de vivre. Nous sommes une analogie. Et je crois qu'avec le temps, on peut se permettre d'être un peu plus aigu, un peu plus carré, c'est vraiment. Ce parallèle araméen-hébreu, eh bien, nous avons un parallèle très analogue de notre temps, c'est juifs et israéliens. Les juifs sont les hébreux de l'exil romain, de la même manière que les araméens étaient les hébreux de l'exil de Babel et de l'Antiquité. Il faut retenir la vie comme elle est écrite. Et pour qu'Abraham redevienne hébreu, il faut qu'il se dépouille de ce que les kabbalistes appellent Klipat Aram, l'écorce araméenne. Et nous savons très bien que c'est le problème qui est en jeu, c'est un problème de société qui est en jeu entre juifs et israéliens, de devenir hébreux, mais pas qu'une façon de parler. C'est un problème extrêmement compliqué, grave et difficile. Il faut se dépouiller de la condition du juif de la diaspora. Ouais, je ne sais pas si. Mais je n'ai pas terminé. Je ne sais pas si vous devinez déjà que votre question a nommé là, mais c'était dans la question. C'est ça qui se passe, et c'est ça qui s'est passé à la sortie d'Égypte, c'est ça qui se passe à toute fin d'exil. Il y a une nécessité de se dépouiller de l'identité araméenne, je prends le modèle dans Abraham, pour devenir hébreu. Et alors, ce n'est qu'à posteriori que les descendants reconnaissent qui était Abraham. Ishmaël et Isaac étaient les deux fils d'Abraham. Il y a qu'Isaac qui savait qui était Abraham. Ishmaël, lui, avait un ancêtre qui s'appelait peut-être Ibrahim. Donc, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Il n'avait pas la même perception du phénomène. De la manière que contemporain Moïse, les 4/5 des Hébreux n'ont pas vu qui était Moïse. Alors vous me dites, non, on ne voit pas. Ben, c'est ce qu'ils voient pas, toujours pas. Et ce n'est pas évident que. Que ça devrait être une chance. Non, mais c'est une vérité aveuglante, alors on est aveuglé, on l'a beaucoup. Et je vous donne un exemple. Très souvent, on me demande dans des. Pas forcément des vérités, surtout des évangiles. On demande des signes, qui les chrétiens aiment beaucoup des signes. On demande des signes qui appuient le fait que nous vivons vraiment la fin. La période des problèmes, du matin, maintenant, des étudiants. Donc je crois que ça procède d'une mentalité secondaire, littéraire, ou si vous voulez, pour qui la Bible est un livre. La Bible, c'est un livre. La Bible, c'est une parole qui a été dite par écrit par la révélation. C'est vrai que Dieu est un livre. Et nous sommes un peuple libre. Et je savais bien que depuis Buber, il y a une espèce de cliché que nous sommes le peuple du livre. Nous ne sommes pas du tout le peuple du livre. Nous sommes le peuple de celui qui a dit ce qui a été écrit dans le livre. Je dis souvent, mais je le rappelle, parce que tout ça, c'est un faisceau de problèmes qui se relie. C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai, c'est parce que c'est vrai que ça a été dit par écrit. Mais qui savait que c'était vrai pour le mettre par écrit? C'est ce qui voyait. Ça sort du bêta midrash de telle ou telle époque. Le bêta midrash du temps de Christiaou. Le bêta midrash du temps de Lisez Baba Batra. Comment ces choses-là sont devenues à lui? Mais les contemporains, ben, il y avait ceux qui voyaient, et ceux qui ne voyaient pas. Donc, les yeux qui alors, je reviens à mon problème de psy. J'ai l'habitude de répondre de la manière suivante. Vous me direz d'ailleurs si c'est suffisamment convaincant. Il y a des événements qui sont eux-mêmes la propre psy. Mais si on cherche un signe à un événement qui est lui-même son signe, c'est qu'on est incapable d'être sensible à quelque signe que ce soit. Je vais vous dire, 2000 ans, c'est une massivité telle, un événement qui n'était pas possible pendant 2000 ans, subitement devient possible dans les dimensions plus propres, c'est ça le signe, c'est l'événement lui-même. Et si je demande un signe à un événement pareil, c'est que vraiment je suis corrompu par ça. C'est le fait de demander un signe du miracle qui montre qu'on est incroyant. Je ne sais pas si c'est clair. Comment un événement impossible pendant 2000 ans et il se réalise dans les dimensions dans lesquelles il se réalise et on demande un signe. Ça procède de la mentalité moyenne, de la mentalité païenne. 2000 ans. Donc je crois qu'effectivement, ces quelques derniers siècles, l'intelligence a mythifié les réalités du type. Alors elle est incapable de les dire. Tout ça, ça tourne autour d'un mot que je n'ai pas encore dit, mais c'est David qui en parlait tout à l'heure. On a mythifié la notion du Messie. Et on l'a mythifié de manière telle qu'elle devient indiagnosticable, qu'on ne peut plus la diagnostiquer. Chaque fois que les gens me parlent du Messie, qu'ils attendent ou qu'ils n'attendent pas, eh bien, je leur demande tout simplement, mais de quoi vous parlez? Une personne est capable de dire de quoi il s'agit. De quoi vous parlez? Et je crois que c'est un piège comme question. La tradition elle-même n'a rien laissé à ce sujet, sauf Maïmonide. Et alors, ceux qui ont des raisons de ne pas croire ce que l'on nous dit, eh bien, on croit Maïmonide partout, sauf dans ce chapitre. C'est vrai que j'ai raison. Mais, je ne sais pas si vous avez eu cette expérience, hein, quand on parle, les gens qui parlent du Messie, on dit, mais montre-moi un texte, de quoi tu parles? Alors, il y a un onzième chapitre, il faut que la fin demain, du Rambam. Ah oui, mais le Rambam, quoi le Rambam? Tu le considères pas comme un sauté? Oui, partout, sauf là. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut réaliser. Alors, c'était de la prérogative des prophètes, précisément, de comprendre le présent, parce qu'ils connaissaient le passé. Alors, ça leur permettait d'expliquer le présent à leur contemporain. Mais encore une fois, il y avait un grand privilège du temps des Hébreux, c'est que la révélation était réelle. Chaque mot, j'ai de vous dire que nous parlons de choses qui se sont cachées. Il y a eu un temps où j'étais dévoilé. Nous en parlons par allusion. Et alors, ça dépend de son premier mot, quand on met dans le mot qu'on emploie. Les Hébreux voyaient, alors que nous comprenons ce qu'on nous dit au sujet de ce que les Hébreux voyaient. Alors nous comprenons pas.